This is the Rights Protection, GNSO, PDP, and Trademark Clearinghouse Independent Review on March 10th, 2016, from 10:45 a.m. to 12 p.m. in the Atlas Room.
Hello, Verizon people. Sorry, hang on a moment. Chuck, who am I talking to? Hello, Reese. What you were hearing is probably the open microphone, which is the Q&A mic in the room, and you're hearing electronic noise in the background. Yeah? All right, man. Cheers, Reese. I'm not convinced they've been giving you the right treatment.
You don't even know when you're being fucked with.
I Good morning, everybody. Hello. Good morning.
Bonjour. Bonjour à tous.
Good morning. Good morning, everybody. We're about to start. If you'll take.
Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer. Je vous prie de bien vouloir prendre place.
So I'd like to welcome.
Karen Lenz prend la parole. Bonjour à tous. Dans cette séance, nous avons combiné plusieurs thèmes liés à la protection des droits ainsi qu'au travail qui est en cours. Nous allons commencer avec Mary Wong, qui va nous parler du travail au sein de la GENESO concernant les politiques sur les mécanismes de protection de droits applicable à tous les GTLD, donc tous les RPM pour tous les GTLD. Ensuite, nous allons passer à notre projet qui vient de commencer par rapport au centre d'échange d'informations sur les marques et la révision de ce centre. Ensuite, Greg Reifer va nous parler en détail de la méthodologie et des possibilités de participation. Et ensuite, on passera aux questions et à la discussion avec le public. Merci d'être ici présent. Je vais donner le micro à Mary. Merci, Karen. Mary Wong prend la parole. Je suis Mary Wong. Je viens du personnel de l'ICANN. Je travaille au département de soutien de politique de la GENESO. Donc, je vais vous montrer comment nous en sommes arrivés là. Je pense que ce qui est écrit en blanc n'est pas facile à lire. Je vais devoir renforcer mon expertise en préparation de diapos. Je voulais vous montrer ici où nous en sommes en ce qui concerne le processus de développement de politique qui a été lancé récemment par le Conseil de la GENESO. Je voulais aussi vous donner un aperçu de ce que nous avons ici. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus de développement de politique nouveau qui a été lancé récemment par le Conseil de la GENESO. Où nous en sommes? Je suis ravie de vous raconter que quand le Conseil a lancé le PDP lors de sa dernière réunion avant Marrakech, hier, le Conseil de la GENESO, lors de la réunion publique de la GENESO, la charte de ce groupe de travail a été approuvée, ce qui veut dire que nous sommes formellement constitués pour commencer notre travail. Comment nous sommes arrivés là? Certains d'entre vous avaient participé à ces efforts depuis longtemps et vous vous rappellerez qu'en 2011, il y a eu un rapport thématique publié par le Conseil de la GENESO et à l'époque, ce rapport se penchait sur l'état de situation des politiques de règlement de litiges uniformes, UDRP. Les gens qui participent ici, qui ont participé à ce processus, savent que cela existe depuis longtemps. En 2011, le programme des nouveaux GTLD a été lancé, ainsi qu'une révision après la mise en place de ce programme. C'est pourquoi le Conseil de la GENESO a voulu mettre en place cet effort et c'est pour cela que le personnel a publié une mise à jour de ce rapport thématique. Et je dirais que c'est un rapport nouveau parce que ce rapport couvre non seulement l'UDRP, mais aussi tous les autres mécanismes de protection de droits ou RPM qui ont été développés pour le programme des nouveaux GTLD. Comme je vous l'ai dit, le Conseil de la Geneso a approuvé le lancement de ce PDP le mois dernier et a approuvé la charte de ce groupe de travail sur le PDP hier. Cette diapo peut être utile parce que vous connaissez peut-être l'acronyme de RPM, mécanisme de protection de droit, et il est important finalement de savoir ce que l'on veut dire quand on dit qu'on va faire une révision des RPM. Comme je vous l'ai dit, ce sera les UDRP et le droit de protection de marque des nouveaux GTLD. Vous voyez tous ces mécanismes qui sont sur l'écran. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est le champ de travail du groupe de travail dont la charte a été approuvée hier par le Conseil de la Geneso. En ce qui concerne les processus, il est important de savoir que comme il s'agit d'un PDP qui sera assez complexe, le Conseil a approuvé également un processus qui se déroulera en deux étapes. La première étape couvrira les RPN des nouveaux GTLD et la deuxième phase va se focaliser sur les UDRP. Il est important de savoir que même s'il y a deux étapes, l'objectif final de ce processus est d'aboutir à un cadre cohérent pour traiter les RPM qui ont été identifiés et pour avoir de cette manière un cadre cohérent pour pouvoir examiner et améliorer ces mécanismes de protection de droits de manière permanente. Je vais rentrer dans le détail. Je ne vais pas, rentrer dans le détail. Je vais juste signer deux éléments. D'un côté, la réponse à une question que la communauté a posée au Conseil de la Geneso et au personnel, à savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de délai entre ce PDP et un autre projet du Conseil de la Geneso, qui est le PDP sur les nouvelles séries ultérieures de PDP. Cette question est logique parce que pendant que ce PDP révise les mécanismes de protection de droits, il y a aussi les mécanismes qui ont été développés pour le programme des nouveaux GTLD. Et à la suite des discussions au sein de la Geneso, vous allez voir si vous voyez la charte de ces PDP et la charte sur le groupe qui travaillera sur les séries ultérieures de GTLD, vous voyez qu'il y a une collaboration étroite et une communication, une coordination permanente entre ces deux groupes. Et l'une des méthodes qui a été identifiée dans la charte, c'est la nomination d'un agent de liaison entre les deux groupes. On a pensé à ce que ce soit un membre de ces deux groupes de travail. Donc, félicitations au membre qui a été choisi pour être agent de liaison, parce que c'est un élément important pour pouvoir s'assurer qu'il y aura une coordination entre le travail de ces deux groupes de travail. Un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la caractéristique de cette approche, parce que comme l'objectif est d'avoir un cadre cohérent pour tous les RPM de manière générale à la fin de ce processus, la recommandation faite par le personnel qui a été adoptée par le Conseil de la Geneso, c'était qu'à la fin de l'étape numéro 1, qui est l'étape où seront révisés les RPM du programme des nouveaux GTLD. Donc, le groupe va publier un rapport qui sera donc soumis à consultation publique et qui contiendra des recommandations préliminaires. Le rapport pourrait également identifier des domaines qui devraient être traités dans la deuxième phase du PDP. Donc nous essayons de faire en sorte que l'on puisse travailler sur un document capable d'évoluer. Donc les résultats de la phase 1 sera utile pour pouvoir être utilisé dans la phase numéro 2. Prochaine étape, l'approbation de la charte de groupe de travail hier. Une autre action du Conseil, c'est approuver donc l'agent de liaison du Conseil de la GNSO dans ce groupe de travail sur le PDP. Cet agent de liaison ici, c'est M. Philip Corwin qui est ici au milieu. Un autre élément, c'est qu'on a lancé un appel à volontaires qui a été distribué autant que possible. Nous allons donc y revenir. Soyez au courant de cela. Et nous allons donc planifier une première réunion du groupe de travail. Nous allons établir la date en consultation avec M. Corwin, mais il se peut que ce soit à la fin du mois de mars ou début du mois d'avril. Maintenant, je vais vous raconter un petit. Pardon, maintenant que je vous ai raconté un petit peu de quoi, sur quoi travaillera ce PDP, je suis ouverte à vos questions. Où je vais passer la parole à Karen. Karen Lenz prend la parole. Merci, Marie. Avant de passer à la prochaine section sur la révision indépendante du TMCH, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à la présentation de Marie Wong sur les RPM? Si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole à Antonietta Mangiacotti qui va nous parler du prochain sujet. Antonietta prend la parole. Je vais vous faire un aperçu de l'étude sur la révision du TMCH. Cette révision a été à son origine dans une recommandation du GAC qui a recommandé la mise en place d'une révision du Centre d'échange d'informations sur les marques. Et donc cette révision a pour but d'évaluer les processus mis en place dans le cadre du TMCH, tels que les processus de vérification, la période d'enregistrement prioritaire, en combination avec les autres domaines identifiés par le GAC pour mener à bien la révision. Nous allons voir la question des correspondances inexactes, ainsi que la question donc l'enregistrement prioritaire et du service de revendication de marque. Et ensuite, la question de savoir si les services de notification de revendication de marque doivent être étendus ou prolongés au-delà des 90 jours. Et nous allons examiner également les ressources associées à un prolongement éventuel de ce type de service. Des sources de données que nous allons utiliser pour ce processus sont les bases de données du TMSH, les enregistrements des procès devant les tribunaux, des entretiens avec les fournisseurs des services et des groupes d'utilisateurs clés de ce centre d'échange d'informations sur les marques, ainsi que les rapports du personnel sur la révision des mécanismes de protection de droits. Je voulais mettre l'accent sur le fait que l'objectif de cette révision et de contribuer à la discussion liée aux mécanismes de protection de droits, par exemple, aider au travail du groupe de travail sur la révision CCT. Ainsi qu'au travail du groupe de travail qui se concentre sur le PDP concernant la révision de tous les mécanismes de protection de droits. Nous voulons identifier également des problèmes opérationnels liés à ce centre d'échange d'informations sur les marques pour évaluer quelles seraient donc les améliorations à inclure et, comme je vais vous dire, aussi des questions qui pourraient être considérées dans le travail de futurs élaboration de politique. Je vais donner la parole à Greg qui va rentrer dans le détail du travail de ce groupe. Merci beaucoup. Greg Rafferty prend la parole. Merci, Antonietta. Avant de rentrer dans le détail sur le projet, je voulais vous donner un petit aperçu des personnes qui travaillent dans ce projet. Je suis le vice-président du groupe d'analyse. Nous avons aussi une agence de conseil à laquelle nous faisons appel également. Katia Sem est impliquée dans ce processus. Elle est professeure à l'Université de Pennsylvanie. Elle est spécialisée en économie. Nous travaillons aussi avec Jerry Liu, qui travaille dans l'école de loi de Stanford et qui travaille dans le domaine de la propriété intellectuelle. De manière très générale, notre étude indépendante qui se base sur l'avis du GAC, se focalise sur trois domaines principaux, même s'il y a d'autres domaines sur lesquels nous pouvons nous intéresser aussi. D'abord, la question des correspondances non exactes et dans quelle mesure il faudrait étendre cette correspondance ou ces critères de correspondance. Ensuite, évaluer la protection des RPM et ensuite la protection fournie par la période d'enregistrement prioritaire. En plus de ces aspects, nous nous concentrons sur l'utilisation des données qui est disponible pour nous. En particulier, nous allons obtenir des informations de centres d'échange d'informations de marque en premier lieu, des notifications qui sont envoyées par d'autres acteurs, les informations concernant les UDRP de l'ICANN. Et nous allons combiner donc toutes ces sources de données pour pouvoir mener une analyse ainsi qu'une analyse des données WHOIS qui sera disponible. Je pense qu'il est important de voir que tout ne dépend pas des données dont on dispose et qu'il faudra également mettre en place des interviews, des questionnaires pour la communauté. Je vais rentrer dans le détail plus tard, mais nous allons utiliser donc deux phases d'entretien. Une première phase où nous allons collecter donc les réflexions de la communauté, les commentaires de la communauté, notamment pour voir si nous nous focalisons sur les éléments clés. Une deuxième phase qui tiendra lieu vers la fin de l'étude consistera à évaluer les défaillances de notre analyse s'il y en a et voir quel est donc l'avis de la communauté. Pour entrer un peu plus dans le détail sur les trois aspects que je viens de mentionner, je vais commencer par les critères de correspondance. Ici, l'idée de ces analyses est d'évaluer le coût potentiel, les bénéfices et les coûts potentiels de ces critères de correspondance et du fait de prolonger ou d'étendre ces critères de correspondance. Pour pouvoir faire cela, nous allons prendre des échantillons du TMCH. Nous allons analyser donc cet échantillon représentatif du point de vue statistique et nous allons également analyser un certain nombre de correspondances non exactes. Nous allons utiliser les données WHOIS et nous allons voir quels sont les enregistrements ou les correspondances inexactes qui sont enregistrées au niveau du .com et on va voir qui est le titulaire de ces noms-domaines. Une fois que l'on a identifié les titulaires, nous allons quantifier le pourcentage de variations de chaînes qui sont enregistrées par titulaire de nom. Nous allons également voir dans quelle mesure certaines correspondances non inexactes sont susceptibles de faire l'objet de litiges ou de rentrer dans des procédures UDRP. En ce qui concerne les services de revendication, l'objectif est de comprendre ici comment les titulaires de marque, éventuellement les détenteurs, les titulaires, sont affectés par ces services de revendication. Nous allons faire cela, mener cette enquête auprès de différents titulaires de marque, ainsi qu'auprès des titulaires de nom. Notre analyse va tout d'abord se pencher sur les données TMCH et les données UDRP pour voir comment ce type de service fait une différence au niveau des nombres de candidatures ou d'enregistrements qui sont abandonnés, qui sont enregistrés ou qui font l'objet de litiges. En ce qui concerne la période d'enregistrement prioritaire, nous analysons dans quelle mesure les détenteurs de marques, différents types de détenteurs de marques, par exemple les industries, les différents titulaires de marques, comment ils utilisent cette période d'enregistrement prioritaire et s'il y a des variations au niveau des GTLD. Pour faire cette analyse, l'objectif est d'examiner dans quelle mesure les titulaires de marques utilisent cette période versus la période d'enregistrement général. Nous devons voir si cette période d'enregistrement prioritaire est utilisée et dans quelle mesure pour tous les types, les différents types de GTLD. Et finalement, si nous trouvons qu'il y a un nombre important de détenteurs de marques qui font appel à ce service, cela voudrait dire que ce service est vraiment utile. Nous allons collecter également l'opinion des différentes parties prenantes. Nous allons contacter des entités dans les différents groupes. Nous allons contacter les bureaux d'enregistrement, les registres, les détenteurs de marques, les titulaires de noms de domaine. Et nous allons donc leur demander de nous donner leur avis ou leur contribution. Comme j'ai dit avant, la première série d'entretiens va commencer bientôt pour nous assurer que nous nous focalisons sur les domaines critiques et sur les composantes critiques. Mais il y aura une deuxième étape d'entretien qui auront lieu après la collecte et l'analyse des données pour pouvoir identifier des défaillances s'il y en a dans notre analyse.
Pour que vous ayez une idée des délais de notre projet ou des délais auxquels nous nous attendons, nous venons tout juste de commencer à collecter les opinions des parties prenantes lors de la présente réunion et nous sommes dans le processus de recueil de données. Et la prochaine semaine, ou peut-être la semaine suivante, nous allons commencer déjà à analyser en vrac toutes ces données pour pouvoir commencer à rédiger notre rapport. Nous nous attendons à ce que cela dure jusqu'à mai ou juin 2016, mais le rapport préliminaire sera publié pour consultation publique dès que possible. Nous nous attendons à publier un rapport révisé qui incorpore les commentaires publics reçus vers le troisième trimestre de cette année. Pour conclure, nous avons préparé quelques questions qui sont censées générer des discussions ici, mais ne vous sentez pas limité par ces questions. Nous sommes là pour essayer de voir ce que la communauté élargie pense de notre processus. Et donc, vous êtes libre de poser d'autres questions aussi. Donc, je lirai les questions avant de vous donner la parole. La première question est dans le contexte du TMCH. Le but originel était de protéger les droits existants des détenteurs de marques sans élargir ou créer de nouveaux droits. À votre avis, le système du TMCH actuel protège-t-il suffisamment les droits existants des détenteurs de marques? Deuxième question, à votre avis, l'élargissement des critères de correspondance serait-il bénéfique ou coûteux pour votre organisation et pourquoi? Troisièmement, serait-il utile de prolonger la période du service de revendication de marque au-delà de 90 jours? Quatrièmement, y a-t-il d'autres sources de données qui devraient être considérées pour nous aider à informer cette révision qui n'est pas été mentionnée aujourd'hui? Et finalement, la dernière question, quel serait l'impact sur votre organisation si on modifiait le service de TMCH? Cela dit, je m'arrêterai, je vais me taire pendant quelques instants et si vous avez des questions ou des idées à partager, dites-le moi. Merci. Omer Sader prend la parole. Bonjour, j'appartiens au groupe des parties prenantes non commerciales. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière dans la présentation pour voir la portée de l'étude? Non, quelle est le but de l'étude, sur quoi vous vous penchez? Je pense que c'était avant. Greg Rafford, non, c'est bien cette diapo, c'est ça que vous avez vu. Emerald Sutter, merci. Antonietta, vous avez dit que l'un des buts de cette étude est de travailler avec le groupe de travail du PDP de la GNSO qui se penchera sur cette question et qui fera un appel à volontaires pour les prochaines 3 semaines. D'après ce que je vois ici, votre étude semble se centrer sur la moitié du but du PDP de la GNSO, qui est de protéger les droits de marque. Et une partie des raisons qui fondent le lancement de ce PDP est de réévaluer également les droits des détenteurs de marques, ou plutôt des enregistrements des titulaires de noms de domaine qui enregistrent de marques mais qui ne sont pas des détenteurs de marques. Je semble avoir compris que vous comptez contacter les personnes qui sont dans cette catégorie au cours de votre processus d'entretien, mais ne vous semble-t-il pas que vous devriez peut-être les engager davantage au cours de votre processus si vous comptez soutenir le groupe de travail du PDP, puisque les portées coïncident un peu? Le groupe de travail des questions relatives au TMCH ont développé des définitions spécifiques sur les processus, par exemple, ou sur les droits. Et l'idée est d'équilibrer les droits des détenteurs de marques avec les droits des personnes qui ne sont pas des détenteurs de marques, mais qui enregistrent des noms de marques comme noms de domaine. Merci. Antonietta Mangiacotti. Oui, certainement, nous allons prendre cela en considération. La portée de notre étude est d'évaluer comment le centre d'échange d'informations de marque opère, et les informations qui seront recueillies à partir de cette révision sont censées nous aider à soutenir le PDP de la GNSO dans tout ce qui concerne les mécanismes de protection de droits. Quant aux services proposés par le service d'échange des informations de marque. Karen Lentz prend la parole. Merci, Antonietta. C'est effectivement comme vous venez de l'expliquer, vous avez raison. C'est vrai que le PDP comprend d'autres sujets en même temps et il est beaucoup plus exhaustif que notre révision particulière du Centre d'échange d'informations sur les marques. Mais comme Antonietta le dit, on se servira des travaux de ce PDP à titre informatif pour informer nos discussions et nous savons qu'il y a des questions qui doivent être posées dans le cadre des discussions concernant les protections de droits, concernant les utilisations légitimes des noms de domaine, etc. Donc, l'une des questions que Greg utilise comme déclencheur pour ces discussions est s'il existe suffisamment d'équilibre entre les revendications de marque et les revendications concernant la période d'enregistrement prioritaire. Donc, cela fait partie des travaux du groupe. Marie Wong prend la parole. J'espère que vous pourrez confirmer cela, Karen, mais je dirais que le PDP est beaucoup plus large. Et si vous n'avez pas lu la charte du PDP qui vient d'être approuvée, dans cette charte, il existe une liste très exhaustive de questions qui ont été identifiées par la communauté à ce jour pour ce qui est d'une révision potentielle du PDP. Mais il est important de savoir que cette liste est incluse dans la charte, mais qu'elle n'est pas exclusive. Le Conseil n'a pas déclaré qu'il faut que le groupe se centre uniquement sur cette liste. Donc, le groupe a la possibilité d'ajouter de nouvelles questions d'intérêt à la liste à mesure qu'elles sont identifiées. Donc, les contributions de ce type de données et les études, comme celles que le groupe de Greg est en train de faire, pourraient être très utiles pour le groupe de travail dans ses efforts. Bonjour, je suis Hélène Proust de Donuts. Nous exploitons 195 nouveaux TLD, donc j'ai déjà fait l'objet de 195 processus de revendication de marque, ce qui veut dire que je connais bien le processus. J'ai quelques questions et Je voudrais bien que l'on reprenne la diapo de la discussion, des questions pour discuter lorsqu'on aura fini avec cette question. Voilà. Concernant les critères de correspondance, vous dites que le but principal de ces analyses est d'évaluer les coûts et les bénéfices de l'élargissement des critères de correspondance des marques afin d'inclure les correspondances inexactes. Est-ce que cela s'applique uniquement à la période d'enregistrement prioritaire ou également aux revendications? Greg Raffer, O2. L'intervenante, bien, il me semblait que le processus était censé réviser l'efficacité du programme. Je ne sais pas pourquoi on vous a attribué cette mission de faire cette étude-là. Est-ce le GAC qui vous l'a demandé? Greg Raffer, oui, je pense que c'était une recommandation du GAC, mais je ne connais peut-être pas toutes les implications de l'ICANN. Je dirais que c'est correct. Karen Lenz prend la parole. Elaine, oui, c'est correct. La manière dont cela a été formulé, en ce moment en particulier, reprend une recommandation du GAC disant qu'il devrait y avoir davantage de critères de correspondance appliqués. Donc la question se pose dans le format où on se demande si on devrait garder le système existant ou alors s'il serait nécessaire d'élargir les critères de correspondance. C'est ça la question. Elaine au micro, merci, c'était utile. J'ai eu le privilège de discuter avec Greg et d'avoir été entretenue pour cette étude. Et je suis contente de voir que cela fait partie du processus. Comme on a discuté avec Greg et avec Karen, cela fait un an à peu près, je suis contente de voir que cette étude pourrait avoir des statistiques du moment auquel les revendications de marques sont présentées. J'aimerais bien le voir dans l'étude finale. On n'a pas moyen autrement de montrer au titulaire de nom de domaine quel était le moment où cette revendication a été montrée si leur enregistrement n'a pas été accepté. Donc, il serait utile d'avoir ces informations pour les montrer au titulaire de nom de domaine relatif aux marques lorsqu'ils ne sont pas des détenteurs de marques. Donc, voilà déjà un point. D'autre part, je voulais vous demander de considérer l'utilisation actuelle de l'UDRP et des problèmes de frappe de cette politique uniforme de règlement de litige qui donne lieu à des revendications. Donc si vous avez un PDP, par exemple, où on a une erreur de frappe ou s'il y avait une procédure UDRP en vertu d'une erreur de frappe, vous pourrez peut-être considérer les applications de cela. Sur la liste des marques, en termes généraux, nous proposons de bloquer 4 marques et nous considérions d'élargir ce produit en fonction des erreurs de frappe qui pourraient être contenues sur la liste de noms de domaine de l'UDRP. Donc, outre ce que nous avons en ce moment et outre les erreurs de frappe, j'apprécierais voir quelques données sur la manière dont quelques personnes profitent de cette occasion d'utiliser les mécanismes de la politique uniforme de règlement de litige pour les revendications de marques. Il ne me reste pas grand-chose à dire, j'aurai bientôt fini. Mais maintenant, concernant votre troisième question, vous dites, à votre avis, serait-il utile d'élargir ou de prolonger la période de notification des revendications de marque pour qu'elle dure plus de 90 jours? J'ai déjà lancé 195 nouveaux GTLD et lorsque je considère les données utilisées pour le faire, la plupart de ces revendications ont lieu au cours de la première heure, donc ce serait peut-être plus utile de voir des schémas qui montrent la quantité de revendications qui ont lieu dans les 30 jours, 60 jours, 90 jours, etc. Le TMCH propose un service qui vous permet d'être informé au moment où quelqu'un enregistre un nom de domaine qui utilise votre marque. Mais autre que cela, on n'est pas en mesure de savoir si 90 jours constituent déjà une période trop longue ou si elle est insuffisante. Merci. Bonjour, je suis Philippe Goring, membre de l'unité constitutive des représentants d'entités commerciales. Je suis un conseiller de la GNSO et Mary m'a signalé hier auprès du Conseil en tant qu'agent de liaison et président du groupe de travail du PDP qui est censé réviser les RPM et les nouveaux GTLD. Dans cette capacité, je réitère l'annonce de Mary et je répète, on a une période d'appel à volontaires qui durera 21 jours, qui a été lancée hier avec l'approbation des membres du Conseil. Donc s'il y a des personnes dans la salle ou qui participent à distance qui seraient intéressées à participer à ce groupe, sachant que le travail du groupe demandera beaucoup d'engagement au cours d'une période assez longue, avec des appels hebdomadaires, je suppose, pour suivre un processus complexe en deux étapes qui nous permettent de considérer des questions très complexes, mais certainement nécessaires, je vous invite à participer au groupe. Pour être clair, je sais que vous vous occupez d'une question spécifique concernant le TMCH et que vous ne vous penchez pas sur toutes les questions que le groupe de travail a considérées. Je dirais que cette étude sur laquelle vous travaillez informerait les travaux du groupe de travail. À titre personnel, le centre d'échange d'informations sur les marques a été établi avec des normes de qualité assez exigeantes. Les marques commerciales devaient respecter un niveau de qualité assez élevé pour être admises dans le centre d'échange d'informations. Et à l'étape de la mise en œuvre, la communauté a décidé d'adopter la TMCH plus 50, qui était une politique qui considérait des variations vis-à-vis de la politique qui avait fait l'objet d'une procédure UDRP ou s'il y avait eu des problèmes de manquement aux droits des marques. Cela a été adopté, mais vous savez que, en fait, cette variation a été utilisée pour manquer à la politique existante et pour ne pas respecter le but de la création du TMCH. Il me semble que le centre d'échange d'informations sur les marques aurait été une base de données de très haute qualité, suivant des normes de qualité très élevées, si elle n'avait pas été modifiée. En tout cas, lorsque vous considérez les notifications des revendications de marque et vous évaluez si ce processus de revendication avait été dissuasif, je me demande si, au cours de cette dernière année, la communauté a été surprise de voir qu'il y a eu des millions de processus de revendication de marque, ce qui a eu un impact sur le nombre d'enregistrements de nouveaux GTLD et on n'a jamais su pourquoi il y avait eu autant de revendications. De toute façon, on suppose que les enregistrements correspondent à des personnes qui veulent enregistrer ces noms de domaine pour d'autres buts commerciaux. Donc comment allez-vous réaliser cette étude pour les enregistrements qui ont été suivis dans ce cadre et pour les enregistrements qui correspondaient à des titulaires qui voulaient enregistrer une marque. Donc comment allez-vous voir cette différence entre les registres et les noms enregistrés, les noms déposés? Donc quelle serait la différence avec les autres cas où vous auriez pu avoir ce type d'enregistrement qui ne correspondait pas à un nom défini dans le dictionnaire en tout cas, et voir si cela manque à l'évidence. Ou alors pour les titulaires qui l'ont bien compris mais qui n'ont pas voulu engager un conseil juridique ou qui ne voulaient pas risquer une procédure UDRP ou URS potentielle et que même s'ils ne comptaient pas manquer à la politique existante, ils se sont dit qu'il serait peut-être mieux d'enregistrer un autre nom pour ne pas devoir avoir à faire face au coût d'un conseil juridique. Donc comment allez-vous évaluer ces données et voir s'il y avait des individus qui auraient reçu des informations, des notifications de revendication de marque? Greg Graffer, merci. Je pense que cela dépend des données auxquelles nous avons accès. Il sera probablement impossible de pouvoir évaluer cela à partir des données que nous avons. Nous espérons pouvoir l'identifier. Et nos entretiens et notre sondage sont adressés aux titulaires de noms de domaine actuels ou potentiels. Mais je pense qu'on aura une compréhension suffisante qui nous permette d'évaluer la mesure dans laquelle cela a été un dissuasif pour les différentes activités liées à l'enregistrement. Philip Corwin, donc vous dites qu'il sera difficile, voire impossible, d'évaluer la mesure dans laquelle la réception de notifications de revendications de marque a été un facteur de dissuasion pour les enregistrants ou les titulaires potentiels qui voulaient enregistrer des marques qui n'étaient pas utilisées. Greg Raffer, oui, exactement. On espère pouvoir évaluer cela dans le sondage, mais nous pensons que ce sera peut-être pas spécifique parce qu'il n'est pas facile de trouver tous les titulaires qui appartiennent au groupe auquel vous faites allusion. Merci.
Jeff Newman with
Jeff, j'appartiens au bureau d'enregistrement. Plusieurs questions. D'abord, je ne suis pas sûre pourquoi cela commence à partir d'un avis du GAC, pourquoi c'est basé sur un avis du GAC. Je pense que cela est aussi envisagé dans les révisions de la TRT. J'irai voir ces rapports pour voir si ce centre d'échange d'informations de marque respecte ses objectifs ou pas. L'avis du GAC est assez limité. Voilà mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, cette revendication a été mise en œuvre, mais est-ce que vous avez analysé l'activité des bureaux d'enregistrement pour voir s'il y a eu une acceptation par défaut, par exemple, des enregistrements, ou bien si les bureaux d'enregistrement ont accepté automatiquement des revendications venues des titulaires. Je ne pense pas que cela puisse être obtenu à partir des données dont vous allez disposer. Troisième élément, je pense qu'il y a seulement un seul centre d'échange d'informations de marque, alors qu'il y a deux parties qui fournissent différents services. D'un côté, la validation et ensuite, d'autre part, les services techniques. Nous avons toujours pensé qu'il pourrait y avoir plusieurs centres d'échange d'informations de marque, parce que maintenant, on a un service monopolisé par un seul organe. Et il y a des frais. Est-ce que vous allez vous pencher sur les coûts pour savoir si ces coûts ou les frais des centres d'échange d'informations de marque pourraient être revus à la baisse à partir de la concurrence que pourrait générer le fait de créer d'autres centres d'échange d'informations de marque ? Je pense que cette multiplication donc des centres d'échange d'informations au niveau des services et au niveau opérationnel pourrait donner lieu à une concurrence. Et j'espère que l'on pourra évaluer les coûts réels vis-à-vis des coûts artificiels qui pourraient découler du fait que ce centre d'échange d'informations de marque est un centre unique. Greg prend la parole. Je suis d'accord avec votre deuxième commentaire. Nous allons inclure cela dans notre commentaire par rapport au bureau d'enregistrement. En ce qui concerne le troisième point que vous avez évoqué, pour voir si on envisage de réviser les coûts, ce n'est pas un objectif, mais nous pouvons y réfléchir. L'intervenant reprend la parole. Je vous encourage à le faire parce que autrement, on commence avec un coût de base de $150, par exemple, et on fait l'hypothèse que c'est le coût, le bon coût ou le coût réel, alors que je pense que qu'il y a d'autres fournisseurs qui ont suggéré des coûts inférieurs. Bonjour, je suis Heather Forrest. Je suis membre de l'unité constitutive sur la propriété intellectuelle et j'ai eu le privilège de me porter volontaire pour un petit groupe de travail au sein du Conseil avec Phil Corwin et Amer pour mener à bien une révision de la charte du PDP concernant les RPM qui a été votée hier par le Conseil de la GNSO. Nous avons évalué les points forts et les points faibles de ce PDP. Et je me demande, je pense qu'il serait utile, j'ai deux suggestions, je pense que ce serait utile comme point de départ, considérer les inquiétudes soulevées par rapport aux points en commun qui devrait y avoir entre ces deux PDP. Je pense qu'il y a des chevauchements qui ne concernent pas uniquement les parties de procédure, mais aussi une partie qui concerne les politiques. Donc, il faudrait bien étudier ce possible chevauchement entre ces deux PDP pour pas qu'il y ait un PDP qui se concentre sur le développement de politique alors que cela relève de la GNSO. En ce qui concerne les questionnaires pour la communauté, dans la GNSO, nous avons une histoire par rapport à cette histoire. Nous avons une approche assez sélective par rapport à qui doit être encouragé. Et je vous encourage à chercher des informations par rapport à ces contacts dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Wendy Seltzer. J'ai parlé un peu avec Greg hier et je pense que un aspect positif, c'est l'analyse basée sur les données, parce que malheureusement, il y a beaucoup de données qui ne sont pas transparentes concernant les utilisateurs ou les systèmes. Nous n'avons pas de chiffres par rapport aux enregistrements, au nombre d'enregistrements faits par le biais du Centre des chances d'information de marque ou le nombre de détenteurs de marque qui ont été dissuadés de le faire. Donc je pense que approfondir l'étude par rapport à ces données est intéressant non seulement au niveau des chiffres que l'on pourrait obtenir, mais aussi au niveau du nombre de données que nous pouvons obtenir et qui pourraient donc nous aider à mieux mettre en place les analyses et à mieux attirer des conclusions plus exactes. Hélène Prouse de Donat. Deux éléments. D'un côté, ce serait fantastique si vous pouviez analyser les chaînes du TMCH qui sont des lettres, par exemple, lettres A, B, C, couleur rouge, mot du dictionnaire, et qui ont passé l'évaluation du TMCH. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des informations par rapport à cela et voir si cela fait une différence pour nos titulaires de nos domaines. Voir aussi comment la modification de ces services aurait un impact, dans quelle mesure la modification de ces services aurait un impact sur nos services, sur nos organisations, au niveau des coûts, au niveau des ressources. Certaines politiques pourraient encourager les détenteurs de marques à nous acheter davantage de produits ou à ne pas le faire. Donc voilà, évaluer cet impact sur nos organisations. Core Parks, je parle en mon propre nom. Tout d'abord, j'ai vu que vous dites que vous allez analyser toutes les données qui seront disponibles pour vous. Je pense qu'il est important d'identifier les données qui ne sont pas disponibles pour essayer donc d'identifier les données qui devraient être collectées dans l'avenir ou des données sur lesquelles on devrait avoir accès. Je pense que le rapport devrait inclure non seulement les données que l'on a à disposition, mais aussi les données qu'on n'a pas à disposition. J'ai trois points. Deuxième point de la diapo, je pense que les analyses doivent inclure, je ne suis pas sûre que cela puisse se faire maintenant. Je pense qu'on doit se concentrer sur les détenteurs de marques d'abord, mais essayer d'analyser les coûts. Il y a beaucoup de services dans le TMCH parce que ça a été construit à partir du travail de la communauté, un travail multipartite. Et nous pouvons donc essayer de voir dans quelle mesure ce travail a rendu la TMCH opérationnelle ou pas. Et bien sûr, les analyses de coûts devraient inclure non seulement le coût, le prix du TMCH, mais aussi le prix pour l'enregistrement prioritaire, pour la revendication de marque, etc. Et finalement, troisième point, on a parlé du service d'enregistrement prioritaire, Sunrise en anglais. Si nous trouvons des enregistrements qui sont faits de manière significative, vous dites que cela serait la preuve que le service est utile. Et je pense qu'il faut identifier les chiffres, mais aussi comprendre pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que le TMCH est trop cher pour les titulaires? Est-ce que l'on peut mettre en place d'autres processus? Donc, pour ceux qui n'ont pas rejoint la TMCH, quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait appel à ce service de la TMCH? Je pense qu'il faut donc essayer de mettre en place un travail systématique de questions pour obtenir ces informations. Greg prend la parole. Merci de ces commentaires. En ce qui concerne le fait de savoir pourquoi des détenteurs de marques potentielles n'utilisent pas la période d'enregistrement prioritaire, nous allons poser cette question dans notre enquête, mais il se peut que ce ne soit pas aussi systématique que l'on voudrait. Nous avons Helen Paste, dit Karen Lenz. Helen, vous voulez parler? Aaron Pace, pardon. Aaron Pace, à distance, est-ce que vous voulez poser votre question? Karen Lentz prend la parole. Pendant qu'on attend la question à distance, j'ai un commentaire par rapport à certaines interventions. Je pense que Elaine, et je ne me souviens plus du nom de l'autre personne qui est intervenue, mais il a été dit à plusieurs reprises qu'il fallait se pencher sur la notification donc de ce service et de l'effet dissuasif que cela pourrait avoir sur les détenteurs de marques. Ainsi que vous avez parlé des données, de l'indice de données qui sont disponibles, mais aussi des données qui ne sont pas disponibles. Donc je tenais à dire que c'est pour nous difficile d'essayer de trouver des moyens d'obtenir ces données pour notre étude. La deuxième partie, nous allons peut-être pouvoir parler avec les titulaires pour voir comment ils reçoivent ces avis, ces notifications. Et nous espérons obtenir des réponses qui nous permettent de comprendre quelle est la réaction des gens par rapport à ces notifications, si elles sont comprises, si elles ne sont pas comprises, si ça a un effet dissuasif, etc. Je voulais juste répondre aux commentaires qui ont été faits dans ce sens et nous allons passer à la question à distance. Greg, nous avons une question dans la salle de chat. Aaron Pace, il dit, est-ce que les protections TMC couvrent les droits pour les codes sources, les droits de propriété intellectuelle des codes sources? Greg prend la parole, je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que non, mais je n'en suis pas sûre. Deuxième question de Christine Torrain de Amazon. J'ai compris que le groupe d'analyse allait voir comment le TMC a travaillé jusqu'à maintenant. Il paraît qu'on demande des informations aussi sur des futurs changements du TMCH. Est-ce que ce groupe va accepter des commentaires par rapport à des changements qui pourraient intervenir dans l'avenir? Si ce n'est pas le cas, pourquoi cherchons-nous des données qui ne reflètent pas ce qui s'est passé avec la TMCH dans le passé? Est-ce que vous allez faire des recommandations? Greg, au micro. Nous n'allons pas faire de recommandations. Notre objectif est de comprendre comment cela fonctionne actuellement et s'il y a des points qui imposent des frais supplémentaires au TMCH et à la communauté, mais nous n'allons pas élaborer des recommandations pour les Cannes. Merci, dit Karen Lenz. Je vais ajouter un élément à la réponse de Greg par rapport au commentaire fait par Helen Forrest. Mary peut-être voudra commenter quelque chose par rapport à cela, mais j'allais dire que cette équipe de révision n'a pas donc le pouvoir de formuler des recommandations, n'a pas le mandat de formuler des recommandations. Nous devons nous concentrer sur le donné, c'est notre mission primaire, d'une façon qui n'a été pas, avec une méthodologie qui n'a pas été appliquée jusqu'à maintenant. Et donc la question de départ, c'est de savoir quelles sont les données que nous avons et nous essayons d'établir des indicateurs sur la base des données dont nous disposons et sur la base des discussions que nous avons avec les différentes parties prenantes et des différents groupes. Le résultat de ce rapport ne sera pas des recommandations à mettre en place. Mary Wong prend la parole. Je suis d'accord avec ce que Karen vient de dire. Je peux dire que, en fonction des consultations, nous pensons qu'il y aura une communication entre le groupe de travail et Greg et son équipe, et cela pourrait pourrait ne pas prendre le format d'un communiqué ou d'un document, mais plutôt le fait que Greg participe à notre équipe ou l'agent de liaison participe à notre équipe. Président de la unité constitutive de la propriété intellectuelle, mais je parle en mon propre nom. Je voulais dire qu'il est important de comprendre la non-adoption du TMCH. Je pense que ce n'est pas un secret que les attentes n'ont pas, que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et je pense qu'il faut comprendre pourquoi cela a été ainsi. Si c'était un problème de communication, un problème de coût, un problème de manque de bénéfices, bref, je pense qu'il est important de comprendre cela. Et un sous-ensemble de ce travail devrait se concentrer justement sur la réponse à cette question. Il est donc important de comprendre pourquoi ils ont fait le choix de faire appel à la TMCH ou non. Si c'est parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de bénéfice pour eux ou autre. Je répète, il est important. D'autre part, je ne pense pas que le fait de se pencher sur la qualité, entre guillemets, de la TCMH soit très intéressant. Je pense que ça impliquerait de rentrer dans un territoire qui est un peu dangereux. Il se peut qu'il y ait eu des manques de qualité pour certains enregistrements. Dans d'autres contextes, ces enregistrements ont été vraiment de grande qualité. Merci beaucoup.
Philip Corwin, j'ai d'autres commentaires à faire. D'une part, j'évalue les questions que vous avez proposées pour discussion et je tiens à dire que tout le monde accepte le fait que l'ICANN accepte l'application de mécanismes pour protéger des droits ou pour créer une base de données comme celle-ci qui protège les droits existants des marques déposées. Mais l'ICANN n'a aucune autorité pour l'élargissement des droits ou pour créer de nouveaux droits de marque. Cela relève des autorités des pouvoirs nationaux. Cela appartient aux gouvernements locaux de le faire. C'est de leur compétence. Quant aux enregistrements, on a discuté du coût de l'enregistrement d'un nom de domaine. Et comme je l'ai dit, il y avait un programme qui était le TMCH plus 50 qui se fondait un peu sur l'historique de l'UDRP pour pouvoir dire que la variation avait été mal utilisée. Mais le TMCH, après tant de délibérations au sein de la communauté, a été modifiée et a fait l'objet d'une utilisation malveillante, je pense. Donc, elle n'est pas bien utilisée. Puis, pour revenir à mon rôle de l'unité constitutive des entités commerciales, des représentants d'entités commerciales, nous participons au programme de protection des marques déposées des grandes sociétés aux États-Unis et ailleurs. Et les marques nous disent qu'elles n'ont pas profité du service d'enregistrement prioritaire une fois qu'ils avaient enregistré leur nom de domaine, pour la plupart des cas, parce que les registres avaient établi des prix trop chers pour l'enregistrement de leur marque commerciale. Et donc, ils avaient décidé de donner ce bénéfice de coût potentiel aux registres. Et que la différence entre les deux, en réalité, ne changeait pas beaucoup pour eux et pour leurs affaires, alors que la disponibilité était à peu près la même. Donc, s'ils commençaient à avoir des infractions ou des manquements au droit des marques déposées, ils auraient peut-être activé ce type de processus de revendication des marques commerciales, mais les termes du TMCH lors de l'enregistrement de prioritaire sont très importants pour la période préalable. Merci. Hélène de Donuts, je voulais répondre aux commentaires de Greg. Je pense que ce serait mieux si je vous donnais un exemple. Je me rappelle lorsqu'on a commencé à voir les noms génériques ou les termes génériques entrer à travers la période d'enregistrement prioritaire, je me demandais qui possède la marque de la lettre A, par exemple. Et lorsque j'ai cherché qui était le détenteur de marque, quels étaient les détails de l'enregistrement, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des relations entre les termes génériques et les personnes qui sont connues pour avoir enregistré beaucoup de noms. Alors, il est facile de voir que le TMCH est utilisé par les détenteurs de marque d'une manière qui pourrait dissuader la participation des vrais détenteurs des marques, des vraies personnes qui ont le droit d'utiliser ces marques. En même temps, on se demande comment les titulaires de noms de domaine s'intègrent au TMCH ou comment ils profitent du service d'enregistrement prioritaire et si cela est mieux pour eux que pour un détenteur de marque. Karen Lenz, bien, je vous remercie tous d'avoir participé activement à partir des discussions qui ont été proposées à travers ces questions. Y a-t-il des questions finales, des remarques? Je suis Paul Foddy, je parle en mon propre nom. En tant qu'utilisateur final, je me demande pourquoi le public général n'a pas accès à ce service. C'est-à-dire la possibilité de trouver qui sont les détenteurs de marques des noms de domaine serait utile. Merci. Karen Lenz. Merci Paul. Pour ce qui est de l'accès du public général au TMCH, cela a été discuté en profondeur au moment de formuler la proposition et au moment de la mettre en œuvre. La plupart des enregistrements de marques déposés, indépendamment de la compétence ou de la juridiction, est disponible, ce qui veut dire que vous avez accès à ces informations en tant que public général, mais pour ce qui est spécifiquement du centre d'échange d'informations sur les marques, on a identifié quelques inquiétudes des détenteurs de marques qui sentaient que les personnes pourraient peut-être trouver des informations concurrentielles à partir des données qui sont enregistrées dans le TMCH ou qu'ils pourraient peut-être tirer des informations de marques d'une compagnie, d'une société au niveau mondial depuis un seul endroit. Donc c'était cela qui a été soulevé comme préoccupation et c'était cela qui a fondé la réaction du personnel lors du rapport sur les mécanismes de protection de droits qui a été publié l'année dernière. À partir des commentaires, on dirait que cette inquiétude prévaut toujours. Donc voilà ce où on en est. Paul Foddy ne pourrait-on donc pas créer un annuaire qui permet d'utiliser les informations du TMCH qui pourrait ajouter une valeur pour les utilisateurs parce que s'ils étaient disponibles pour le public général, vous pourriez ajouter de la valeur pour l'utilisateur. Karen au micro, merci Paul. Cette suggestion a déjà été faite auparavant et elle génère toujours une discussion qu'il faut que l'on tienne. D'autres commentaires finaux? Bien. Autrement, nous vous remercions d'avoir participé et nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci.